Chers lecteurs, bonsoir. Bonsoir David.
Bonsoir.
Alors, c'est la dernière de l'année littéraire et nous avons, David et moi, choisi un livre qui est un véritable coup de poing, un livre qui va peut-être marquer la fin et un livre qui est finalement très actuel parce qu'il nous rappelle quotidiennement ce qui se passe malheureusement dans l'actualité. Encore récemment, on a eu des cas semblables. Il s'agit du livre de Laurent Mauvigné, « Ce que j'appelle oubli », publié aux éditions de Minuit. Alors, c'est un livre qui est tout petit, puisqu'il est court, il est composé de 62 pages, et qui est inspiré d'un fait divers qui a eu lieu, donc un fait divers réel, qui a eu lieu en 2009 à Lyon, et qui raconte l'histoire d'un homme miséreux qui n'a pas un sou en poche, et qui va se laisser tenter par une canette de bière dans un supermarché. Il est tellement poussé par la soif qu'il va la décapsuler et la boire ouvertement sans se soucier de se cacher ou de prendre en compte des caméras de surveillance. Et bien évidemment, il va être repéré par les vigiles qui vont s'acharner sur lui sans que le lecteur sache trop pourquoi. Et malheureusement pour nous et pour lui, son cœur ne va pas y résister. Et donc, le livre de Laurent Mauvigné, et ce n'est pas la première fois qu'on présente des œuvres de Laurent Mauvigné dans les mots d'Anouk, est un livre qui vous prend et qui vous saisit directement par la gorge parce que, et puis je te laisse la parole David, c'est un livre qui ne comporte qu'une seule phrase et qui commence déjà par une phrase qui semble être sortie tout droit du milieu. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Je commence avec cette phrase, la première page, il y a écrit « Et ce que le procureur a dit, c'est qu'un homme ne doit pas mourir pour si peu. » Le récit donc commence sans majuscule par la conjonction « et va se poursuivre tout au long de 60 pages en une seule phrase qui se déploie au fur et à mesure des rythmes, des cassures et de tout ce que ça entraîne. Alors David, toi qui mets en scène ce livre bientôt dans un spectacle, donc je te laisse parler, explique-nous un petit peu, surtout l'aspect, je dirais, de la langue qui est typique de Laurent Mauvigné dans ses livres à lui.
Oui, donc j'ai la chance de pouvoir mettre en scène ce texte que j'ai choisi il y a un moment déjà. La première exploitation du spectacle sera au Festival des Francophonies à Limoges, où je représente la Belgique francophone, le 23 et 24 septembre 2023, et la première exploitation belge le 4, 5, 6 octobre au Central à la Louvière. Alors ta question est intéressante parce que c'est un récit et que je vais le mettre en scène. Donc, c'est un récit. C'est un monologue où il faut une oralité et où il y a un très, très gros travail sur la langue. Parce que tu as dévoilé le pitch, mais finalement, quand tu lis « Est-ce que le procureur a dit, c'est qu'un homme ne doit pas mourir pour si peu ?» On a déjà tout dit de l'histoire. Mm-hmm. L'histoire est l'histoire la plus banale au monde. Mm-hmm. C'est un homme qui rentre dans un supermarché. Il ouvre une canette de bière, il se fait tabasser à mort parce qu'il a bu une canette de bière. Point barre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis point barre? Parce que Laurent Mauvigné, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Laurent Mauvigné? Il voit, parce que le récit, il est social, mais il n'est pas que social. Il voit le fait divers. Il voit que ça fait une ou deux phrases. Un homme tabassé, voilà. Il voit que ça. il reçoit une information et il se dit, mais enfin, on parle d'une vie humaine et donc c'est un petit reste, c'est un petit résidu dans un petit journal. Voilà, il y a eu ça. Et,
pour une bête chose, oui.
On va lire ça comme de manière moins... on va lire ça de manière moins assidue qu'une publicité, même. Et donc, lui, il dit, je vais rendre hommage à ça et je vais mettre une langue. Je vais mettre une langue pour dire, voilà ce que pourrait valoir une vie humaine. On va s'arrêter 50 minutes et on va mettre les choses au point.
Et c'est vrai que le livre, on sent la tension qui monte, on sent l'angoisse qui définit la cadence du livre. Et en fait, Laurent Mauvignier nous place en tant que lecteur comme, enfin, il nous donne la place de ce spectateur qui assiste au fait à une situation dans laquelle il ne peut plus intervenir parce que finalement, c'est déjà trop tard pour reculer, c'est déjà fait. Et donc, c'est une phrase aussi qui ne nous laisse pas, comme tu le dis, de répit, puisqu'elle va nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Et cette fin, elle est déjà finalement prédite parce qu'on sent très vite que les choses vont, délirer, ça va mal tourner. Et c'est une chronique d'une mort annoncée pour rien. Il dit d'ailleurs dans le livre, quelle honte de mourir pour si peu. Et évidemment, c'est impossible pour nous de ne pas faire le lien avec, par exemple, des mises à mort ou des mises à tabac, qu'elles soient racistes, comme par exemple le cas de George Floyd, ou d'autres cas où on sent en fait, et c'est là-dessus où je voudrais m'arrêter et te poser peut-être quelques questions, parce que tout ce fait divers suscite des questions, c'est que, avant tout, tu m'as dit un truc assez intelligent, tu m'as dit, au fait, ce type, avant même d'avoir commencé à boire cette canette, il était déjà mort. C'est déjà un oublié de la société.
Oui, c'est un oublié. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Et moi, je pense que le titre, c'est l'oubli du fait divers. Mais j'insiste que ce n'est pas... D'ailleurs, l'auteur est ennuyé quand on lui reparle du fait divers. J'insiste que ce n'est pas un roman social, c'est un roman... sur qu'est-ce que ça veut dire une vie humaine. Et donc, voilà, tu parles de George Floyd. Et moi, je pose la question, je repose la question en lisant ça. Qu'est-ce qui fait qu'on regarde des choses et qu'on ne regarde pas d'autres choses? Qu'est-ce qui fait qu'on regarde... Donc, je n'ai pas de jugement maintenant à ce stade, mais qu'est-ce qui fait que la semaine passée, on regarde de manière assidue? Je dis « on », c'est les médias d'abord. C'est une grosse critique sur les médias, ce livre aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on regarde 5 personnes couler dans un sous-marin qui va voir le Titanic et que chaque 3 jours, il y a 200 personnes qui coulent sans aide pour chercher une vie normale? Donc, on fantasme sur le Titanic, moi avec. Moi avec, mais aller s'intéresser à des gens qui n'ont rien d'extraordinaire.
Ça n'a rien de sexy.
Ça n'a rien de sexy et ça ne nous intéresse pas. Et je crois que ce que Laurent Mauvignier fait, c'est qu'il remet un peu le cadre en disant, vous savez, une vie, ce que c'est.
Évidemment.
Parce qu'il dit dans le texte, vous pensez qu'une vie, ça vaut une bière, deux bières,
ouais,
trois bières, six bières. Enfin, il ne s'agit pas de ça.
Et c'est presque au fait, moi c'est ça qui m'a frappé, c'est comme si, quand il dit, on pourrait tout aussi bien dire qu'il est mort pour rien. Moi, je me suis posé la question, est-ce que pour mourir, il faut devenir un exemple? Est-ce que justement, il y a une cause, comme tu dis, qui fait que justement, cette mort attirera l'attention? Et c'est ça qui est terrible, comme tu dis, parce que c'est un simple fait divers, c'est on ne peut plus banal, et peut-être pas assez sexy, comme on le dit justement, pour attirer l'attention. Moi, ce qui m'a aussi fait beaucoup réfléchir, c'est l'effet de groupe, l'effet de meute, l'effet de masse, où il le dit à un moment, on sent très bien que cet homme qui est en train de boire cette bière, eh ben, au début, il ne sent pas très bien ce qui va lui arriver. Il ne voit même pas la chose arriver, juste qu'il comprend, d'après les clins d'œil que ces vigiles se font entre eux, qui s'excitent finalement entre eux pour justement voir qui va augmenter et surenchérir dans les coups. Et ça nous fait réfléchir aussi un petit peu sur cet effet de groupe.
Oui, moi, l'effet de groupe, tu fais bien d'en parler. Moi, mais voilà, moi, je m'identifie comme lecteur et moi, je ne suis pas, enfin, je ne suis pas un, voilà, ça fait penser à un clochard. Moi, je ne suis pas un clochard, mais je pense, quand j'ai lu ce livre, je pense à l'irrationnel de la meute. Je pense
Oui, tout à fait.
au lynchage. Par exemple, on vit quand même une période où les lynchages, les vérités, les contre-vérités sont balancées à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Donc, où, excuse-moi, mais où est la pensée? Qui dirige quoi? Où est la pensée? Qui a raison? Qui a tort? On a l'impression que les...
Est-ce que
Que
ça n'a pas
plus les,
toujours
on a
été comme
l'impression
ça?
que... Oui, ça a toujours été comme ça, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut être, on peut s'inventer. Alors pendant le Covid, on a eu affaire à de nombreux virologues, je suis ironique, hein, qui disaient, voilà, le Covid, c'est ça. Aujourd'hui, il se passe un événement, quelqu'un va dire quelque chose, quelqu'un va dire, ah, mais ça, c'est la vérité. Et donc, la circulation du sens, je crois que les réseaux sociaux ne font pas du bien
Je
à
suis
ça. Je veux
d'accord.
dire, il y a Umberto Eco, il disait, les réseaux sociaux, c'est un peu le café du coin
Ouais.
d'avant, mais le café du coin le vendredi soir où les employés allaient boire une petite bière, ben, c'était oublié le samedi matin. Maintenant, il y a des traces qui ne sont pas vraies. Et il y a des personnes, et la presse s'amuse de ça parce qu'elle doit vendre. Il y a des personnes qui doivent vendre
Des
des
scoops.
lynchages, des
Des
choses.
scoops.
Et je crois que faire monter ce texte-là aussi, qui est pur, remet une lenteur dans l'ordre de la pensée, dans l'ordre de tiens, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait pas sens?
Ah
Je
oui,
sais pas
parce
si je suis
que
clair.
oui, non, parce que aussi ce qu'il y a, c'est que, et c'est ça qui est la force de Laurent Mauvigné, parce que c'est vrai que ces textes sont toujours très courts, sont toujours très haletants, et en fait, ils ne nous laissent pas le temps de nous préparer à ce qui va se passer. Justement, ils nous poussent directement dans l'insensé, dans l'indicible, dans l'irrationnel. Et c'est ça, finalement, cette force, c'est qu'on est entraîné avec ces vigiles, finalement, dans cette folie meurtrière.
Mais alors, lui, il vole une bière, mais il y a des politiques qui sont pris dans des tourbillons de rumeurs.
Tout à
Enfin,
fait.
voilà, je dis, on vit quand même un monde. Je ne sais pas, ce film américain d'il y a 20 ans qui disait, attention, ça va se passer comme ça. J'ai plus le nom en tête, mais on vit
Oui.
dans un monde où.
1984.
Enfin, je suis désolé, l'année passée, il y a un cycliste qui a effleuré un gamin dans les Ardennes. Et je dis, il y avait une mise à mort sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on retrouve ce type. Et donc, ce type a finalement été au commissariat, s'est dit, voilà, j'ai effleuré un enfant, j'ai pas fait exprès, parce qu'il était en danger de mort. Je veux
Tout à
dire,
fait. Oui, il y a une mise en lynchage.
voilà. Et même si tu as fait des choses qui sont pas bien. Donc, il a volé une bière, ce n'est pas bien.
Il n'y a
Ce
pas
qui
de
s'est passé,
différence.
et moi je prends ça, désolé, je prends ça pour une maladie, ce qui s'est passé avec Pierre Palmade n'est pas bien, mais le fait qu'en moins de 24 heures, il y ait une demande de mise à mort de ce monsieur, je dis, est-ce qu'on est devenu des barbares?
Tout à
Et
fait.
j'insiste là-dessus parce que je crois qu'il inscrit ce texte dans une époque où le lynchage existe.
Je suis
Tu ne peux
d'accord.
pas savoir, Anouk, si demain tu ne vas pas te faire lyncher parce que tu as dit quelque chose de travers, quoi.
Alors moi, j'ai été fouinée un petit peu aussi dans ce fait divers qui a eu lieu à Lyon. Et alors, ce que j'ai lu finalement, c'est que je pense que c'était l'avocat général, Jean-Pierre Dage Desgranges, ben lui, il a indiqué que les quatre agents de sécurité vont être mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et commise en réunion. Et c'est cette phrase, au fait, qui me dérange toujours, sans intention de la donner, où on voit que là, ça va pas, quoi.
Oui, écoute, ça, ils marquent bien. Je crois qu'ils marquent bien. Je crois qu'ils sont. Alors, c'est pas. Je crois qu'ils sont tellement bêtes quand ils font cet acte qu'ils se disent peut-être on n'avait pas l'intention. Enfin voilà, je veux dire, c'est comme quand un enfant fait une bêtise, il n'avait pas l'intention. Enfin, c'est tout. Mais ce que je veux dire aussi sur ce texte, là où il est plus large et plus général, c'est que la personne qui parle, elle parle au frère de la
Oui,
victime.
tout à fait.
Donc. Moi, je pose la question, qui parle? Et je n'ai pas de réponse parce que c'est tout le monde qui parle. Mm-hmm. Je veux dire, c'est comme si tu vas, je donne cet exemple toujours par rapport à ce texte, c'est comme si tu vas à un enterrement et qu'il y a des discours, et puis tu sens qu'il y a... Tout le monde voit quelqu'un qui connaissait très bien la victime, mais personne ne sait qui c'est. Donc c'est quelqu'un... c'est neutre sans être neutre. Et donc c'est là où c'est passionnant, c'est que ça appartient à tout le monde. J'avais une deuxième chose à dire, que je veux dire depuis un moment. Notre discussion, elle est un peu intellectuelle, mais je veux rappeler que voilà, dans la langue, elle est magnifique. Et quand il pose l'acte de dire moi, par rapport aux faits divers et par rapport à tout ce qu'on discute là, je vais répondre par la langue. Mm-hmm. Je veux dire que une vie, c'est au moins un hommage dans une langue. C'est pouvoir se dire tiens, même à un enterrement, waouh, putain, ce type, il a parlé 50 minutes. Waouh, ouais, mais t'as entendu ce qu'il a dit.
Il pousse quelque chose par écrit aussi.
Pousse quelque chose où on est. Et là, on essaye d'analyser quelque chose. Et donc, c'est bien, on réfléchit. Mais moi, j'aimerais, en mettant en scène, au moins secouer émotionnellement ces choses-là. Bien et sûr. Pas qu'on comprenne ces choses-là.
Bien sûr.
C'est vraiment un langage qui... Enfin, moi, dans la notion de théâtre, j'aimerais réellement créer une bombe émotionnelle. Mm-hmm. C'est ça, l'objectif. Sans apporter de réponse aux choses. Mais en donnant la langue comme contrepoids. Et ce qui va aider le lecteur ou le spectateur, et que j'ai oublié de dire, c'est que c'est très agréable à lire parce que c'est quand même un écrivain qui a la notion du thriller. Mm-hmm. Voilà. Donc même si on dit des choses...
C'est agréable, mais ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de ponctuation, donc il n'y a pas de répit. Moi, je n'ai pas trouvé ça agréable à lire, mais je suis à chaque
fois épatée. Agréable n'est pas le bon mot, mais c'est un thriller.
Voilà, mais je suis à chaque fois épatée par son style. Il y a aussi une chose qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est à quel point les gens miséreux, les gens qui n'attendent plus rien de la vie, ben, il le dit dans le livre, à un certain moment, il dit, et il n'a pas essayé de les convaincre, de leur dire que dans une autre vie, ils auraient pu aller à l'école ensemble ou être copains et soutenir la même équipe de foot. Ou même, tiens, ça, lui aussi pourrait travailler avec eux et être vigile. Il sait ce que c'est les bolos qu'on peut faire pour vivre, il ne les juge pas, et blablabla, et blablabla. C'est-à-dire que même là, il baisse les bras avant même d'avoir commencé toute révolte. C'est un homme, et ça nous fait réfléchir un petit peu sur la condition de ces gens qui n'ont rien et qui déjà, avant que le combat ait commencé, sont déjà perdants.
Je pense que si on va dans la psychologie de ça, ce sont des gens qui se sont débrouillés pour vivre et qui ne sont pas malheureux. Et je crois qu'ils ne débattent pas parce qu'ils demandent s'il est... Ils se demandent, et c'est ça ce qui est triste, c'est beaucoup plus triste que l'aspect matériel. Ils se demandent s'il est légitime de débattre.
Exactement.
Et ça, je trouve très triste. Moi, j'ai dirigé des lieux culturels où le frein matériel, il savait se résoudre parce qu'on invitait les gens gratuitement à aller voir dans des quartiers plus difficiles, mais ils n'osaient pas venir parce qu'ils se disaient mais
est-ce
je ne vais pas comprendre.
Ouais.
Et donc il y a cette barrière là qui est très intéressante. Il dit presque rien. Je ne vais pas dire où c'est dans le texte. Il dit que trois mots qui sont très banals. Il dit pas comme ça, pas maintenant. Mm-hmm. Ce qui est très banal, mais en même temps profond. Pas comme ça, pas maintenant.
Tiens, ça veut tout dire.
Est-ce que je dois vraiment arrêter ma vie pour une bière? Ça veut dire ça.
Mm-hmm. En tous les cas, David, répète-nous les dates exactes de quand est le spectacle. Et comme ça, on le note pour ceux qui veulent venir.
Je voulais encore dire une petite chose.
Vas-y, excuse-moi.
Avant de conclure, il y a une chose qui est très, très belle dans le texte. Et c'est comme si cette chose...
voilà,
c'est comme si c'est de l'ordre du cauchemar ou du rêve, je ne sais pas. Mais le premier mot, le premier mot du texte, c'est « et ». Et le dernier mot du texte, c'est « maintenant ». C'est comme si on se dit... Tiens, et maintenant, on fait quoi avec tout ça?
Exactement.
Voilà, et ça, j'ai remarqué sur le tard. Alors, les dates, je peux les rappeler. C'est le 23 et 24 septembre au Festival des Francophonies à Limoges. Ça, c'est pour les amis français qui nous écoutent. Et le 4, 5 et 6 octobre au Central à la Louvière. Voilà, c'est un spectacle qu'on va essayer de faire.
N'hésitez pas à venir, je pense que ça peut être passionnant. Et puis, je pense surtout que pour un acteur, apprendre tout un texte si dense, ça ne doit pas être évident.
Oui, il est en train de travailler.
Merci beaucoup, David.
Merci à toi, merci pour cette belle année.
Voilà, et bonnes vacances à tous. Et on se retrouve fin août pour des nouvelles aventures. À bientôt.